Quatrième partie, la chevauchée cruelle. Harwich.
Les mouettes, encerclant de leur vol criard les mâtures des navires, guettaient les déchets tombant à la mer. Dans l'embouchure où se jettent à la fois l'Orwell et la Stour, la flotte voyait se rapprocher le port de Harwich, son môle de bois et sa ligne de maisons basses. Déjà deux embarcations légères avaient abordé, débarquant une compagnie d'archers chargée de s'assurer de la tranquillité des parages. La rive ne paraissait pas gardée. Il y avait eu un peu de confusion sur le quai où la population, d'abord attirée par toutes ces voiles qui arrivaient du large, s'était enfuie en voyant des soldats prendre pied. Mais bientôt rassurée, elle s'attroupait à nouveau. Le navire de la reine, arborant à sa corne la longue flamme brodée de lys de France et des lions d'Angleterre, filait sur son air. 18 vaisseaux de Hollande le suivaient. Les équipages, au commandement des maîtres mariniers, abaissaient les voilures. Les longs rames venaient de sortir du flanc des nefs, comme des plumes d'ailes soudain déployées pour aider à la manœuvre. Debout sur le château d'arrière, la reine d'Angleterre, entourée de son fils le prince Édouard, du comte de Kent, de Lord Mortimer, de messire Jean de Hainaut et de plusieurs autres seigneurs anglais et hollandais, assistait à la manœuvre et regardait grandir la rive de son royaume. Pour la première fois depuis son évasion, Roger Mortimer n'était pas habillé de noir. Il portait non point la grande cuirasse à aumes fermées, mais simplement l'équipement de petite bataille, le casque sans visière auquel s'attachait le camail d'acier, et le haubert de maille par-dessus quoi flottait sa cotte d'armes rouge et bleue ornée de ses emblèmes. La reine était vêtue de la même manière, son mince et blond visage enchâssé dans le tissu d'acier et la jupe traînant jusqu'à terre, mais sous laquelle elle avait chaussé, comme les hommes, des jambières de maille. Et le jeune prince Édouard, lui aussi, se montrait en tenue de guerre. Il avait beaucoup grandi ces derniers mois et pris un peu tournure d'homme. Il observait les mouettes, les mêmes, lui semblait-il, aux mêmes cris rauques, aux mêmes becs avides, qui avaient accompagné le départ de la flotte dans l'embouchure de la Meuse. Ces oiseaux lui rappelaient la Hollande. Tout, d'ailleurs, la mer grise, le ciel gris nuancé de vagues traînées roses, le quai aux petites maisons de briques où l'on allait bientôt aborder, le paysage vert, onduleux, laguneux qui s'étendait derrière Harwich, tout s'accordait pour le faire se souvenir des paysages hollandais. Mais aurait-il contemplé un désert de pierre et de sable sous un soleil flambant, qu'il eût encore songé par indifférence à ces terres de Brabant, d'Ostrevent, de Hainaut qu'il venait de quitter? C'est que Monseigneur Édouard, duc d'Aquitaine et héritier d'Angleterre, était pour ses 14 ans 3/4 tombé amoureux en Hollande. Et voici comment la chose s'était faite, et quels notables événements avaient marqué la mémoire du jeune prince Édouard. Après qu'on eût fui Paris à la sauvette, en ce petit matin où Monseigneur d'Artois avait intempestivement éveillé le palais, on s'était hâté en forçant les journées pour gagner au plus pressé les terres d'Empire, jusqu'à ce qu'on fût parvenu chez le sire Eustache d'Aubersicourt, lequel, aidé de sa femme, avait fait un accueil tout d'empressement et de liesse à la reine anglaise et à sa compagnie. Dès qu'installée et repartie au mieux dans le château cette chevauchée inattendue, messire d'Aubersicourt avait sauté en selle pour s'en aller prévenir le bon comte Guillaume, dont la femme était cousine germaine de la reine Isabelle, en sa ville capitale de Valenciennes. Le lendemain même, accourait le frère cadet du comte, messire Jean de Hainaut.